public fidèle, auditeur et émérite, bienvenue sur Radioactive. Nous sommes le vendredi 31 mars, le beau temps s'est invité depuis lundi et la radio aussi. Radioactive, c'est une série d'émissions collégiennes et citoyennes en direct du collège de la Source à Mout, à deux pas des montagnes, des gentianes et des sentiers de randonnée. Aujourd'hui donc, une seconde émission imaginée, écrite et produite par une classe de 3e. Une classe qui a des idées, une classe qui a des choses à raconter, une classe qui a la classe. Au sommaire, et pour vous plaire, un plein panier de valeureux chroniqueurs, de sujets hauts en couleur, de musique et de joie de vivre. Enfin, on l'espère. À présent, vérifions tout ça. La régie est prête. Le public aussi, youpi! Je suis Garance, votre pilote, et je vais de ce pas accueillir nos premiers invités. J'invite donc à me rejoindre autour de la table Brian et Gabin. Gabin, votre petit nom c'est Gabin. Gabin, tuin tuin. Vous, votre truc, c'est les jeux vidéo et le ski alpin, je me trompe?
C'est ça.
Hello, Brian is in the kitchen. No, Brian is in the CDI. In the school, because he likes the school. Bon, allez, c'était pour la petite blague. Là, c'est plutôt le Brian qui n'aime pas l'école et qui passerait volontiers ses journées une manette à la main. De quoi allez-nous vous parler aujourd'hui?
Bonjour, alors avant tout, on va se présenter. Moi, c'est Gabin.
Et moi, Brian.
Oui, enfin bref, on est sûr que vous en foutez un peu, mais bon. Il faut que vous sachiez un truc, c'est qu'il y avait plein de sujets qui nous intéressaient et du coup, celui-là, on l'a choisi à la courte paille. Puis on vous prévient, on va pas se retenir et on va cracher le morceau à propos de ce scandale.
Alors aujourd'hui, parlons peu, parlons bien, nous avons traité du mauvais élève du recyclage qui émet des pourcentages médiocres, souvent déclarés comme le pays des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, notre belle patrie, la France.
Et oui, en effet, comparé à notre voisin, l'Allemagne, qui atteint des pourcentages très élevés qui frôlent les 61%,
bravo le veau,
nous, les gamins cancres, en termes de taux de recyclage tous déchets confondus, avions atteint la petite barre des 35% en taux de recyclage en 2010, selon le site du gouvernement et le site institut-économie-circulaire.fr.
Plus précisément, j'ajouterais que 75% des briques alimentaires sont recyclées, ce qui est à peine au-dessus de la moyenne globale, admettons-le. Mais bon, on préfère bien mieux. Seulement 20% des plastiques sont recyclés et enfin 35% des barquettes en alu. Et oui, ça fait mal.
Aïe, 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 aïe.
Et puis petit point, avant que l'on nous saute dessus, nous tenons à préciser que suivant les sites d'information, les chiffres changent. Les plaisirs d'Internet. Enfin bref, revenons à nos moutons, Jamy. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remédier à cela, nous, citoyens?
Mais figure-toi que McDonald's, à côté du massacre qu'ils font avec leur hamburger, on voit régulièrement des bénévoles et salariés ramasser les déchets dans les communes et villes environnantes. Mais bon, à l'échelle de la pollution qu'ils effectuent en faisant leur hamburger, si on peut appeler ça comme ça, c'est comme proposer un pansement à la personne qu'on vient de tuer.
Oui, enfin bref, c'est pas le meilleur exemple. En voici un bon maintenant. Pour les autres régions qui pourraient éventuellement nous écouter, vous pourriez alors faire comme dans notre département, le Doubs, instaurer les poubelles jaunes qui permettent de donner une poubelle en plus pour le recyclage, c'est-à-dire pour les cartons, les papiers, les bouteilles, etc.
Et pourquoi pas opter pour la manière naturelle, comme tout particulièrement les composts pour y recycler épluchures et déchets provenant de Dame Nature.
Après, bien entendu, il faut garder ces déchets en verre, en carton, etc., etc., dans un coin, pour après aller dans une déchetterie ou au tri sélectif, pardon. Mais attention, il ne faut pas se tromper de poubelle. Cela nuit au procédé de recyclage par la suite.
Enfin, voilà, chers auditeurs, nous sommes sûrs que vous connaissez déjà les différentes manières de recycler. Nous en doutons pas, mais au lieu d'y réfléchir, faites-le. Dites-vous qu'une bouteille non recyclée équivaut à un ours polaire qui crève. Totalement faux, mais ça peut éventuellement vous convaincre. C'est tout pour nous.
Over.
Over.
Merci Gabin et Brian pour nous avoir parlé du recyclage. Donc j'espère que chez vous maintenant, vous recyclerez vos emballages.
Moi, c'est déjà fait.
Moi aussi.
C'est bien.
Merci. Thank you.
Bonjour Enzo, bonjour Tristan.
Bonjour.
Bonjour.
J'accueille deux sportifs, l'un pratique le ski et l'autre le rugby.
Non.
L'autre le parapente et le ski, une belle brochette de nature quoi, Tristan et Enzo.
C'est bien ça. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'association Apache Évasion. Elle accompagne des citoyens handicapés pour faire du sport et l'œuvre pour que chaque personne, quelles que soient ses capacités, puisse profiter de la pleine nature été comme hiver.
Grâce à ses équipements adaptés et ses bénévoles motivés, Apache permet aux personnes en situation de handicap de faire des activités qui leur étaient inaccessibles jusqu'à présent.
Désormais, nous allons vous faire écouter l'interview de Madame Berger, salariée de l'association.
Pourriez-vous nous décrire votre structure ? Alors, Apache Évasion, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2007 par Cédric Siron. L'association a pour but d'ouvrir la pleine nature aux personnes en situation de handicap. Donc, notre but, c'est de proposer des sports de loisirs pour que les personnes en situation de handicap puissent sortir à l'extérieur et puis profiter des mêmes activités que les valides.
Il y a des bénévoles dans cette association ?
Oui, alors l'association, elle est quasiment exclusivement composée de bénévoles. Je dis quasiment parce que moi, je suis salariée et je suis la seule salariée. Après, on se base sur plus de 120 bénévoles. Donc, il y a deux types de bénévoles dans notre association. Il y a tous les bénévoles qui vont nous donner un coup de main sur les manifestations, les buvettes, les événements qu'on organise pour ramasser un petit peu d'argent pour l'association. Et on a d'autres bénévoles qui sont guides. Et c'est eux qui vont guider les personnes handicapées, par exemple en fauteuil ski l'hiver ou alors en VTT de simple l'été.
Et comment s'organise l'association ?
L'organisation, elle est plutôt simple. Comme dans toute association, on a un conseil d'administration composé du président, du trésorier, du secrétaire et on a également un vice-président. Donc ça, c'est le conseil d'administration. On a aussi un bureau. Donc c'est des membres du conseil d'administration qui vont être dans une petite commission pour travailler avec moi. Et dans le quotidien, c'est moi qui travaille pour l'association et qui vais gérer l'association. Donc c'est moi qui prends les réservations, par exemple des personnes en situation de handicap qui veulent venir faire des activités avec nous. C'est moi qui vais appeler les bénévoles pour leur demander de venir encadrer. Et puis après, c'est les bénévoles, eux, qui vont accompagner les personnes en situation de handicap sur les activités. Voilà.
Ok. Quel est l'intitulé de votre poste dans l'association ?
Alors moi, je suis chargée de développement dans l'association. Donc chargée de développement, c'est un petit peu un mot qui veut tout et rien dire. Le but, en fait, de mon travail, c'est de faire fonctionner l'association. C'est beaucoup d'administratif, donc c'est organiser donc les activités des personnes handicapées, organiser un peu les plannings des bénévoles. Il faut également que j'aille chercher un peu d'argent dans les entreprises, faire des dossiers de subvention pour trouver des fonds pour l'association. Donc voilà, c'est un peu, c'est assez vaste, on va dire.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier et qu'est-ce que cela vous apporte ?
J'ai choisi ce métier parce que j'ai des proches en situation de handicap qui ont du mal, on va dire, à avoir accès aux loisirs. Et je pense que c'est pas parce qu'on est dans un fauteuil roulant ou qu'on a des difficultés au niveau sur le plan mental qu'il faut qu'on reste chez soi. Donc moi, j'ai choisi ce métier parce que je trouve ça hyper important d'ouvrir le sport pour les personnes en situation de handicap. En particulier le ski, parce que nous, on est tous nés là au milieu, on est des skieurs, on est toujours allés à Métadier, et on se rend compte que les fauteuils roulants, au final, ils s'arrêtent sur le parking de Métadier, et les gens, ils regardent les autres faire du ski, les valides faire du ski. Et ça, c'est plus possible, surtout en 2017, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce poste, et c'est vrai que c'est un travail qui m'apporte beaucoup, parce que j'arrive à partager mes valeurs personnelles, les valeurs que j'ai dans la vie, dans mon travail, donc c'est vraiment intéressant.
Faut-il un diplôme ou une formation particulière ?
Pas vraiment. Moi, j'ai un master tourisme et handicap, mais on n'a pas... Master, c'est Bac plus 5, en fait. Mais on n'est pas obligé d'avoir ce niveau d'études pour être à mon poste. Ce qui est bien, c'est d'avoir quand même des bases au niveau administratif, parce que comme il y a beaucoup de dossiers à faire, il faut quand même réussir à faire les dossiers, un peu des bases en comptabilité, et puis connaître un petit peu le milieu du handicap.
D'accord. Quelles sont les ressources financières de Apache Évasion ? Êtes-vous aidé par les collectivités publiques ?
Alors, on a plusieurs ressources. Nous, les heures qu'on propose aux personnes en situation de handicap, on les vend. C'est comme dans une école de ski, par exemple, on vend à l'heure nos prestations. Ça nous permet d'avoir un petit peu d'argent pour financer nos appareils. Mais ça suffirait pas à financer toutes les charges de l'association. Donc, on a aussi donc, les collectivités publiques qui nous aident, donc les communautés de communes. On a la communauté de communes du Mont d'Or, mais on a aussi la communauté de communes des Hauts-du-Doubs, donc qui est autour de Moutes. On a également la région qui nous aide financièrement. Et on a, ce dont je vous parlais, tous les organismes, les fondations qui vont pouvoir nous donner de l'argent quand on fait une demande de subvention, en fait. Et on a aussi, j'avais oublié quelque chose de très, très, très important, on a toutes les entreprises, en fait, en local qui nous aident. On a beaucoup de mécènes, ça s'appelle. C'est des gens qui vont nous donner de l'argent pour qu'on puisse faire nos projets. Donc, par exemple, le Rotary Club de Pontarlier, on a aussi McDo à Pontarlier. Enfin, on a vraiment beaucoup, beaucoup de monde derrière nous, quoi.
Nous nous sentons touchés par ce sujet car nous faisons tous les deux du ski. Et quand on va en ski, on voit les personnes handicapées, les personnes de l'association faire du ski. Et on trouvait quand même ça bien.
De plus, nous pensons qu'il n'y a pas assez de choses de faites pour les handicapés en France. Donc, c'était bien de s'intéresser à l'association de Évasion. Pour finir, nous tenons à remercier Madame Berger qui a répondu à nos questions et qui nous a aidés à réaliser ce projet.
Merci beaucoup pour nous avoir parlé de tout ça et j'espère que ceux qui nous écoutent se porteront bénévoles pour cette association.
Merci.
J'accueille Nina, Zoé et Lucille. Bonjour Zoé, tout comme Nina, vous êtes adepte du ski, des vastes prairies enneigées, plutôt en pente, m'a-t-on dit, puisque vous avez votre premier flocon, c'est ça ?
Oui.
Nina, vous habitez à Moutes, j'espère que vous n'êtes pas trop frileuse, et vous adorez le foot. On ne sait pas trop si c'est le ballon ou les joueurs, mais vous adorez le foot. Lucille, bonjour. Vous êtes une lectrice affamée. Vous rêvez d'avoir votre propre canasson, alors en attendant, vous montez celui des autres. L'égoïsme vous insupporte et il est probable que dans le futur, vous écriviez un livre. C'est ça. De quoi allez-nous vous parler aujourd'hui, Nina et Zoé ?
Donc, on va vous parler du racisme, car il y a beaucoup de racisme dans le monde et beaucoup de personnes sont mises de côté à cause de leur couleur de peau ou de leur handicap.
Oui, évidemment.
Nous, on est blanche aux yeux verts et on n'est pas victime du racisme, et pourtant, on a décidé de vous en parler.
Être raciste, c'est porter un jugement sur quelqu'un sans savoir qui il est vraiment. C'est aussi penser que notre race est supérieure aux autres. Le racisme, la haine des musulmans, des étrangers, l'homophobie augmente de manière insupportable dans notre pays. C'est injuste car beaucoup de gens sont déjà mal dans leur peau, donc ils n'ont pas besoin des insultes des autres.
Nous avons décidé de parler du racisme car beaucoup prétendent que le racisme n'est pas un véritable problème alors que beaucoup de personnes en souffrent à cause des insultes sur leur origine et leur physique et plusieurs familles vivent dans la crainte d'en être les victimes. Chaque être humain a droit au respect et à la justice. À cause du racisme, certains sont privés de ce droit. Le racisme crée des injustices dans les groupes alors que tous devraient pouvoir vivre ensemble.
Il y a du racisme aujourd'hui. Car beaucoup de parents ont appris à leurs enfants à se méfier des gens appartenant à d'autres groupes ou simplement différents, comme des propos comme quoi les Arabes sont des voleurs et les musulmans sont des terroristes, alors que l'enfant sera raciste. Il y a aussi beaucoup de préjugés. Dès qu'une personne a les cheveux plus courts ou a une malformation ou est handicapée, elle se fait mal voir dans la rue. Ce n'est pas normal car ils ont le droit de vivre comme tout le monde. Ils n'ont pas choisi d'être comme ça. Et ils vivent avec, au lieu d'être jugés, ils devaient être respectés pour vivre avec tous ces regards et ces préjugés. Nous allons donc interviewer une personne qui est victime des préjugés sur les handicapés.
Bonjour Lucille, bienvenue sur le plateau de Radioactive.
Bonjour.
Donc, quel type de préjugés y a-t-il sur vous ?
La plupart des gens pensent que je suis handicapée.
Pourquoi les gens pensent-ils ça ?
J'ai une jambe qui est plus courte que l'autre et du coup les gens pensent que je ne peux pas faire beaucoup de choses. Alors que c'est totalement faux.
Comment le vivez-vous ?
Étant petite, je l'ai très mal vécu. Je me sentais beaucoup rejetée par mes camarades. Maintenant, ça s'est beaucoup amélioré.
Est-ce que ça vous met mal dans votre peau ?
À un moment, je me sentais vraiment très mal. Et puis maintenant, ça s'est apaisé.
En avez-vous parlé à des personnes de votre entourage ?
J'en ai parlé à ma mère, mais elle n'en a pas réellement pris compte.
Pourquoi elle n'en a pas pris compte ?
Elle se disait que ça allait passer et elle pensait que j'exagérais.
Avez-vous insulté des personnes qui vous ont embêté à ce propos ?
Non.
Les gens vous rejettent toujours ou plus de personnes vous acceptent que lorsque vous étiez petite ?
J'ai appris à aller vers les autres et du coup je me sens mieux avec les gens, j'ai amélioré mes relations sociales et du coup ça s'est bien amélioré.
D'accord.
Merci Lucille pour votre témoignage.
De rien.
Au revoir. Le racisme est nuisible pour les personnes qui en sont victimes car, comme nous l'a dit notre invité, les regards, les insultes et le fait d'être rejetée juste parce qu'elle a une jambe un peu plus courte que l'autre l'a rendue méfiante des autres. Elle était mal dans sa peau, ce n'est pas normal ni humain de discriminer les gens comme ça. Le racisme ne profite à personne, il engendre la méfiance entre les individus.
N'importe qui peut être victime du racisme, même si tu te sens bien dans ta peau, des personnes peuvent quand même t'insulter et te nuire. Tu ne dois pas te laisser tourmenter ni subir une discrimination raciale sans réagir. Si tu as besoin d'aide, demande-en et mets en œuvre le meilleur moyen d'affronter ceux qui s'en prennent à toi. Il y a de plus en plus de racisme en France, il y a toujours eu du racisme dans le monde.
Nous ne sommes pas utopistes et nous savons bien que ça ne s'arrêtera pas sur un claquement de doigts, mais le bien vivre ensemble, c'est ce que nous souhaitons à chacun et chacune. Nous, on n'est pas touchés par le racisme, mais si on a décidé d'empoigner le sujet, c'est parce qu'on en entend souvent parler et visiblement c'est quelque chose qui touche le monde. En revanche, la discrimination, qui est une forme de racisme, touche en ce moment les musulmans comme quoi ce sont des terroristes. Et c'est un exemple parmi tant d'autres.
Nous allons finir par une citation d'Averroès. L'ignorance mène à la peur mène à la haine conduit à la violence. Voilà l'équation.
Merci de nous avoir parlé de ce sujet très important en France. Merci du témoignage de Lucille. Bonjour Vincent, Mathieu et Théo.
Bonjour.
Vincent, vous êtes amateur de sushi de boxe thaï. Vous vous appelez Vincent. Et Mathieu, vous êtes un spécialiste de la pizza aux multiples couleurs, un passionné de boxe thaï et vous avez une sœur, c'est cela ?
Oui.
Si je vous offre un poulet frites, vous êtes heureux. Et si dans la foulée, vous pouvez enfourcher une moto, alors là, vous êtes aux anges.
Tout à fait.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Alors, on va vous parler du sexisme, mais avant, j'ai une petite blague à vous faire. Donc, à votre avis, pourquoi les femmes ont-elles des petits pieds?
Je sais pas.
Pour être plus près de l'évier, pour faire la vaisselle.
C'était drôle. Chers auditeurs, j'imagine que vous avez deviné le sujet qui nous anime. Aujourd'hui, nous allons parler sexisme. Pourquoi? Eh bien, parce que nous trouvons ça aberrant, dégueulasse, injuste et anormal que certaines femmes gagnent moins que nous, les hommes. Rendez-vous compte, en moyenne, une femme gagne 6,3% de moins que les hommes pour le même travail.
Du coup, nous sommes allés interroger les professionnels du collège pour leur demander leur avis sur le sujet.
Donc, pour la première question, on leur a demandé si le personnel se sentait concerné par les inégalités hommes-femmes, et si oui, dans quel cas ?
Je me sens concernée par les inégalités hommes-femmes, car aujourd'hui encore, beaucoup d'hommes pensent qu'une fois rentrés du travail, leur journée est terminée, alors que la mère de famille, malgré une journée de travail, reprend naturellement son rôle de mère, en rentrant à la maison, devoirs, repas, ménage, s'occuper des enfants. Et ceci est dû à notre culture. Même si les mentalités ont tendance à évoluer, beaucoup d'hommes se retranchent derrière cet acquis. Je ressens également des inégalités au niveau des responsabilités politiques. Les femmes ne sont pas assez écoutées et représentées.
Je vais dire oui, c'est surtout dans le cas du foyer, justement. Donc toutes les corvées, on va dire, s'occuper des enfants, c'est pas forcément une corvée, mais voilà, tout ce qui est papier, ménage, faire à manger. Je fais beaucoup plus que mon conjoint. Bon, bah, c'est normal, parce que lui, il travaille plus et a un salaire beaucoup plus élevé que le mien. Mais parce qu'on a fait ce choix, justement, pour s'occuper des enfants. Voilà.
Donc, en gros, il faut le faire 50-50. Tu laves deux assiettes et l'autre lave deux assiettes. Non, sans rigoler, il faut se répartir la tâche. Et celui qui a le temps, c'est nous les ados qui nous tapons tout le taf.
Ensuite, nous leur avons demandé s'ils pensaient qu'il y avait des métiers réservés aux hommes et des métiers réservés aux femmes. Nous avons de nouveau interrogé Fanny.
Non, pas spécialement. Si on a les compétences requises, chacun peut faire ce qu'il veut. Pour mon premier enfant, ma sage-femme était un homme et j'ai trouvé ça super. Bien sûr, certains métiers sont plus adaptés aux hommes, comme les métiers du bâtiment, maçon ou charpentier, dû à la force physique requise. Je vois mal une femme de mon gabarit porter des sacs de ciment de 20 kg. Mais ces métiers ne sont pas forcément fermés aux femmes.
Je sais pas vous, mais on voit mal une femme charpentier ou un homme sage-femme, mais on peut y remédier. Si une femme n'est pas assez musclée, bah elle peut aller au temple.
Après, nous avons demandé à une prof d'histoire géo, à une surveillante et à un prof d'espagnol ce qu'il pensait du fait que les hommes gagnaient plus que les femmes.
Alors évidemment, je trouve ça complètement inadmissible et je suis bien contente d'être fonctionnaire parce que les fonctionnaires sont payés pareil pour le même statut, qu'on soit homme ou femme. Et je pense que c'est une discrimination qui est vraiment ancrée dans la société et qui est liée au fait qu'on éduque les filles d'une autre manière que les garçons et que certainement les filles revendiquent un salaire moins important dans les secteurs privés. Et ça explique qu'elles conservent un salaire moins élevé que leurs collègues masculins alors qu'elles font un travail aussi efficace, voire meilleur d'après plusieurs études.
Alors, je pense que c'est totalement inégalitaire et que parce que les femmes ne valent pas moins que les hommes et qu'elles peuvent faire tout à fait le même travail que les hommes. Donc, c'était complètement exagéré et abusé même que les femmes ne soient pas payées comme les hommes. Voilà.
Alors, personnellement, j'arrive pas à comprendre qu'on vive dans une société où il y a encore des différences de salaire entre les hommes et les femmes. Tout simplement parce que je pense qu'on est égaux et que le travail, elles le font largement aussi bien que nous. Elles font le même nombre d'heures que nous, les hommes, et qu'elles ont les mêmes capacités physiques et intellectuelles que nous pour bien des métiers. Et voilà.
Alors nous tenons à préciser que M. Corbeau n'a pas tout à fait raison. Les hommes sont naturellement plus musclés que les femmes. Même certaines femmes, comme les rugby girls, avec un peu d'entraînement, peuvent devenir beaucoup plus musclées que certains hommes.
D'ailleurs, j'ai une autre blague. Dieu crée la terre, il vit que c'était beau. Dieu crée la nature, il vit que c'était beau. Dieu créa l'homme, il vit que c'était beau. Dieu créa les femmes et il dit, bof, on leur mettra du maquillage.
Et alors, on leur a demandé quelles mesures sont à prendre pour qu'il n'y ait plus de sexisme. Cette question, on l'a posée à une autre surveillante.
Je pense qu'il n'y a pas réellement de mesures à prendre. Ce changement devrait s'opérer naturellement, car depuis un certain nombre d'années, il n'est plus à prouver que la femme est l'égale de l'homme au niveau, pas en tant qu'être humain, mais au niveau de tout ce qui est travail, etc. Donc, voilà.
Les hommes doivent voir les femmes comme eux. C'est quelque chose qui doit effectivement se faire naturellement.
Alors, pour terminer, on leur a demandé si les inégalités hommes-femmes sont moins présentes que dans les années précédentes. Et on l'a reposé à Fanny.
Je pense que oui. Donc, dans le domaine du travail, pour le français moyen, je trouve ça évident. Après, quand c'est les gros métiers de la finance ou de la politique, non. Les femmes sont... Enfin, les grands patrons embauchent beaucoup moins de femmes. Après, dans la vie quotidienne, je pense que oui, les femmes travaillent de plus en plus. Qu'à l'époque de nos grands-mères, c'était elles qui restaient à la maison, s'occupaient des enfants et puis faire le ménage. Donc... ça a quand même beaucoup changé.
Donc, si les femmes ont les aptitudes, on devrait les embaucher au lieu de prendre que des hommes qui sont peut-être moins compétents que des femmes.
Alors, on aimerait remercier Garance. Puis pour finir, on te fait une petite blague. On peut dire que tu es un incompétent.
Donc, en conclusion, toutes les personnes interrogées sont contre le sexisme. Malgré cela, le sexisme est toujours présent. Cela montre que les personnes ont du mal à changer de comportement et arrêter d'être sexistes et de se croire supérieures aux femmes.
Merci de nous avoir parlé de ce sujet. Les blagues n'étaient pas terribles, quand même. Mais bon, merci.
De rien.
Rien.
De rien.
Bonjour Anaïs, bonjour Floriane.
Bonjour.
Anaïs, vous rêvez de parcourir le tour du monde, vous habitez à l'hébergement Sainte-Marie et en attendant de prendre le sac à dos, vous voyagez à grands coups de harpe en bonne musicienne que vous êtes. Floriane, vous avez un frère et une sœur, vous pratiquez la danse et vous aimez partager des moments avec les amis et en famille. Quel est votre sujet d'aujourd'hui ?
Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de la maltraitance des enfants en France.
Mais pourquoi ce sujet ?
Mais vous vous rendez compte, ces adultes irresponsables et à la tête vide, mais comment ils peuvent faire ça à des enfants innocents et impuissants ? Enfin, c'est tellement facile de s'en prendre à plus faible que soi. Là, les personnes qui m'écoutent, ceux qui ont déjà fait du mal à un enfant, réfléchissez-y, imaginez les conséquences, ce qu'ils ressentent. Mais qu'est-ce que ça leur apporte à ces débiles de taper sur des enfants ? Mais qu'ils aillent se défouler à la salle de sport ou qu'ils s'achètent un punching ball ou je sais pas. Bon, maintenant, nous allons écouter le témoignage d'une femme ayant été victime de maltraitance. Je te laisse maintenant la parole, Floriane, pour que tu puisses nous la raconter.
Donc voilà exactement ce que pensait cette femme. Bonjour, aujourd'hui j'ai 33 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille, je suis en création d'entreprise et mon mari est infirmier. J'ai une petite maison et une famille formidable du côté de mon mari.
Quelle violence avez-vous subie ?
Tout d'abord, j'ai été maltraitée physiquement, psychologiquement et moralement. Cette maltraitance a duré 14 ans, de ma naissance jusqu'à mes 14 ans et demi. J'ai été victime de maltraitance physique, j'ai été battue à vif par mes parents. Tout le temps, je devais baisser mon pantalon. Mon père et ma mère me battaient avec la ceinture jusqu'à en saigner tous les jours de façon répétée quand je rentrais de l'école. C'était un vrai calvaire. J'ai également subi de la violence psychologique. Je devais apprendre tous mes cours par cœur, mot à mot, et recopier sans faute mes leçons. Je devais aussi apprendre le vocabulaire, en gros 100 à 200 mots de vocabulaire avec les définitions sorties tout droit du dictionnaire. Et ça, tous les jours, même pendant les vacances. À partir de mes 6 ans, j'avais plus de jeux et mes amis n'avaient plus le droit de venir chez moi. ma grand-mère et mon grand-père me donnaient de l'argent pour m'acheter à manger. Vers mes 10 ans, j'ai commencé à voler un peu d'argent à mes parents.
Et comment ressentiez-vous ça ? Avez-vous jamais songé à tout raconter à quelqu'un ?
Le mensonge était dans ma bouche. Je leur racontais par exemple que j'avais pas de devoir, que le prof était pas là, ce qui me permettait de pouvoir souffler un peu. Vers 14 ans, j'ai dû fuguer pour pouvoir être placée d'urgence en foyer. C'était pas facile du tout, avec des parents qui se croyaient tout permis. J'ai dû fuguer exactement 2 fois. La 2e fois, j'avais le visage plein de sang. Mes parents ont dû aller chez le copain de mon père, qui était gendarme. Ils ont dû remplir des documents, remplis pleins de mensonges, bien sûr. Je me rappelle aussi qu'un médecin m'avait examinée. La liste des bleus était longue sur mon corps. J'ai été placée par un juge des enfants jusqu'à mes 20 ans. Mes parents ont bien dormi pendant que moi j'étais en galère pendant plusieurs années à cause d'eux.
Aujourd'hui, cette personne est adulte. Elle en garde des séquelles, pas seulement physiques. Elle ne connaît pas sa réelle identité. Si les personnes qui lui ont fait tant de mal sont ses vrais parents, enfin, toutes les questions qu'elle doit se poser doivent hanter son quotidien. Cette femme a difficilement réussi à se reconstruire en étant adulte, mais elle y est arrivée. Certains n'y arrivent pas et souffrent toute leur vie, et d'autres reproduisent leur violence subite durant leur enfance sur leurs propres enfants. Je pense que dans les écoles et les collèges, il devrait y avoir plus de temps de parole où les enfants pourraient s'exprimer seuls face à un adulte compétent.
Merci Anaïs et Floriane de nous avoir parlé de ce sujet très touchant.
De rien.
Bonjour Anne, bonjour Johanna, bonjour Louane.
Bonjour.
Anne, entre le roller et votre frère, tout va bien. Et tout de suite, j'accueille une adepte de la sieste, une spécialiste de l'oreiller et une compétitrice de la couette. Johanna, bonjour. Louane, votre vie, si j'ai bien compris, c'est en 4 mots. Mac, do, hip, hop. Un peu léger, un peu lourd, le parfait équilibre.
C'est ça.
De quoi allez-nous vous parler aujourd'hui ?
Alors là, si vous voulez mon avis, Garance, nous tenons un sujet. Que dis-je ? Le sujet. Je dis le sujet parce qu'il nous concerne toutes et tous, de la maternelle à la faculté. C'est notre parfum quotidien, vous voyez ?
Certainement, mais nous ne savons toujours pas de quoi il s'agit.
Ah oui, pardon. Notre sujet, c'est les copains, les potes, les amis, les meilleurs amis, le sang de la veine, les « wesh mon frère, ça roule ma sœur, ça va gros ». Enfin bon, voilà quoi, vous avez compris. Tout ça pour dire que s'ils ont autant d'appellations, c'est qu'ils sont plutôt importants, ces personnages. C'est important d'avoir des amis sur qui compter, parce qu'on peut parler de tout et de rien ensemble.
Nos amis savent ce qui est bien pour nous et savent nous conseiller. Ils peuvent transformer des moments tristes en fou rire. Ils peuvent aussi nous donner une nouvelle perspective de la vie. Ils nous aident à avancer dans les 3 chemins et à surmonter certaines épreuves de la vie.
Les personnes n'ayant pas d'amis sont souvent les plus tristes et les plus réservées. Ce sont aussi des personnes trop méfiantes lors d'approche des autres, par peur d'abandon ou d'hypocrisie. La timidité doit se vaincre au fur et à mesure qu'on prend de la confiance en soi, c'est-à-dire qu'on se connaît un peu mieux. Par peur de honte ou de ridicule, on ne fait rien pour avancer et on rate des occasions qui peuvent être exceptionnelles. Nos amis font partie de notre quotidien et on les fréquente tous les jours. C'est pourquoi on doit bien les choisir. Il y a ceux avec qui on passe du temps et on rigole, mais il y a ceux avec qui c'est plus intense. On entend souvent dire que l'amitié est plus forte que l'amour parce qu'elle dure toujours.
Nous avons forcément des centres communs avec nos amis. Une passion commune rapproche beaucoup. Je pratique le roller de vitesse. Quand je suis arrivée au club, j'avais peur des critiques d'autres membres. Mais j'ai appris à connaître les gens et à créer des affinités avec certains qui, eux aussi, ont la même sensation et la même passion que moi.
Les amitiés peuvent aussi se former lors d'une activité ou d'une passion. Par exemple, je pratique le hip-hop. Et lors du hip-hop, nous avons tous cette envie de nous lâcher, danser, créer. Nous avons tous ce point commun qui nous aide à nous exprimer, nous écouter, nous aider à avoir plus confiance en nous, à nous lâcher. On ne se critique pas, nous nous conseillons, du coup nous nous améliorons grâce aux conseils entre danseurs. Entre nous, nous partageons pas seulement de la danse, mais aussi des enchaînements, le travail, la fatigue, le stress lors des shows.
Et pourquoi pas une petite démonstration?
Allez-y, je veux bien voir ça.
Brian, vous pouvez nous mettre un peu de musique?
Merci pour cette superbe danse à Louane et Floriane.
Dorian. On peut ainsi se rendre compte que les amis font partie de notre vie et partagent avec nous les bons comme les mauvais moments. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille.
Et maintenant, sur le plateau, j'ai avec moi Laura, Elisa et Marie-Lisa.
Bonjour.
Elisa, vous êtes née avec un camion de déménagement à côté du biberon. C'est sans doute pour cela que vous souhaitez devenir vétérinaire dans la faune sauvage, histoire qu'on vous laisse tranquille 5 minutes. Vous patinez et c'est plutôt artistique. Vous chantez. Est-ce que vous chantez en patinant?
Non.
Laura, vous avez la trouille, hein, la trouille des araignées, paraît-il. Avec les chiens, ça va beaucoup mieux puisque vous rêvez d'en avoir un. Et vous allez nous quitter pour un petit voyage à Londres.
Oui.
Marie-Lisa, vous avez 14 ans et vous montez encore aux arbres. Franchement, vous n'avez rien d'autre à faire?
Non.
Et maintenant, de quoi allez-nous vous parler aujourd'hui?
Nous allons vous parler du harcèlement scolaire. Pour commencer, merci beaucoup à Laura et Elisa d'avoir accepté de venir témoigner. Je vais laisser Elisa raconter son récit.
Alors, mon petit frère a été victime de harcèlement scolaire il y a 2 ans, lorsque nous sommes allés habiter en Suisse. On a fait la visite de sa future école et tout s'était bien passé. On était sûr que ça allait être une super année et tout. Mais au bout d'un certain temps, il rentrait en pleurant en disant qu'il se faisait tabasser à la sortie de l'école par deux de ses copains. Enfin, copains, voilà. Et du coup, ma mère en a parlé à sa maîtresse d'école qui a tout de suite fait une médiation. Sauf que ça n'a servi à rien parce que dès qu'ils étaient dans la cour de récré, ça recommençait. Alors elle a appelé le directeur de l'école. En lui expliquant la situation, et il a simplement répondu « je n'ai pas de baguette magique ». Donc à partir de là, ça a été très difficile pour mon petit frère et pour nous parce qu'on ne savait pas comment s'en sortir. On était vraiment tout seul, il n'y avait personne qui nous aidait. Et du coup, on a dû appeler les inspections de Fribourg pour pouvoir le mettre en école privée, une école qui est située à 3 quarts d'heure de chez nous. Donc c'était difficile parce que c'était loin et en plus c'était très cher, en sachant qu'on avait déjà un loyer à payer et en Suisse la vie chère. Alors on a dû déménager en France.
Merci beaucoup Elisa pour ce témoignage très touchant. Quel âge avait votre frère lorsqu'il a été harcelé?
9 ans et demi.
D'accord. Maintenant place à Laura. Racontez-nous votre vécu.
Moi ça a commencé quand je suis rentrée au collège, je recevais déjà des critiques par rapport à mon physique. Les années d'après, ça s'était un peu calmé, mais en quatrième, en milieu d'année, ça a recommencé. Ma classe me laissait tomber et m'insultait. Et en troisième, je me suis dit que j'allais ignorer ma classe et qu'on oublierait toutes les histoires qui s'étaient passées, mais au contraire, ça a recommencé. Des insultes et des moqueries se sont encore faites. Donc j'en ai parlé à ma mère et ma mère a contacté le principal. Mais le principal n'était pas d'accord pour un changement de classe. Mais après discussion, il a fini par accepter. Donc après le changement de classe, c'était vachement mieux. Je recevais moins de critiques. Et une fille est restée avec moi. Elle m'a demandé si on pouvait rester ensemble. Et au bout d'un moment, elle m'a dit qu'elle avait juste pitié de moi parce que j'étais toute seule. Je me sentais très seule et très faible avant de changer de classe parce que je n'avais personne avec qui parler et à qui dire ce que je ressentais.
D'accord. Et qui vous a aidé à vraiment sortir de ce cauchemar?
J'ai su qu'Elisa revenait en France et ça m'a tout de suite remonté le moral parce que j'avais besoin de sa présence.
D'accord. Elisa, comment avez-vous vécu l'enfer que vivait Laura?
Eh bien, déjà, quand je suis arrivée en France, c'était juste après l'histoire qu'il y avait eu avec mon frère. Du coup, j'étais encore concernée par le harcèlement scolaire. Alors, quand j'ai vu la galère dans laquelle elle était, je ne pouvais pas la laisser, surtout que c'était une amie. Alors, j'ai tout fait pour la sortir de là.
D'accord. Merci beaucoup pour ces témoignages très touchants.
De rien.
Rien.
Merci d'être sur le plateau avec nous. Merci à Marie-Lisa, Elisa et Laura. Marie-Lisa avait encore quelque chose à nous dire.
Moi, je voulais vous dire pourquoi j'ai choisi de présenter ce sujet. Alors déjà, le harcèlement scolaire est de plus en plus présent en France. En effet, en 2016, il y avait entre 6 et 10% des élèves qui étaient touchés par ce fait, qui est horrible, qui ne permet pas aux enfants et aux jeunes de profiter de la vie. Je trouve qu'il n'y a pas assez de sensibilisation sur ce fait et ça me touche beaucoup, donc j'ai décidé d'en parler.
Il faut savoir aussi que le harcèlement scolaire c'est vraiment pas anodin quoi, parce que ça peut impacter plus qu'une personne, ça impacte toute une famille, toute une vie et la personne est vraiment détruite après ça, donc juste à cause de deux gamins qui veulent s'amuser à critiquer une personne, elle peut être détruite, détruire sa famille et détruire sa vie.
J'espère que ces témoignages vous auront beaucoup touché et vous feront réagir sur ce fait.
Merci.
De rien. Au revoir.
Au revoir.
Bonjour Kendra.
Bonjour.
Vous êtes l'aînée d'une famille de 3 enfants, vous aimez les spaghettis et le roller et vous habitez à Mout.
Oui, tout à fait.
De quoi allez-nous vous parler aujourd'hui?
Je vais vous parler de la place des femmes dans la société d'aujourd'hui. Donc j'ai choisi ce sujet car les femmes sont utilisées comme des objets et je trouve ça choquant. C'est pour ça que j'ai choisi des paroles de la chanson Chouin. Donc les paroles sont... La Gola, c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les chouins.
Voilà, on est en plein dans la vie du collège.
Cette chanson me choque car dans le refrain de la chanson, il dit qu'il préfère les chouins, c'est-à-dire les prostituées aux filles bien. Ça m'a donné l'envie de travailler sur la représentation de la et la place des femmes dans la société d'aujourd'hui, car les femmes sont, comme le montre cette chanson, les femmes sont
maltraitées. Et il y a encore un long chemin à parcourir. Donc les femmes travaillent autant que les hommes et pourtant sont moins payées. Connaissez-vous cette réalité? Pensez-vous que cela soit justifié? Alors qu'en pensez-vous? Je laisse la parole à des intervenants.
Personnellement, non, mais j'en ai entendu parler. J'ai vu une émission dessus où une femme subissait ces inégalités. Son problème, c'était qu'elle n'avait aucun moyen de le prouver devant le tribunal. Je pense qu'il n'y a pas de vraie raison à cela. Les patrons prennent pour prétexte que c'est l'argent de leur futur congé maternité.
Oui, je connais cette réalité. Non, cela n'est pas justifié. Il faudrait vite changer tout ça. Donc, c'est au patron de faire l'égalité des salaires et je pense qu'on a tous les mêmes droits.
Je remercie les intervenants d'avoir répondu à mes questions. Apparemment, tout le monde a l'air d'accord, ce n'est pas normal. Ça doit changer et pourtant, rien ne change. Les femmes sont payées 14% de moins que les hommes. Elles sont insultées dans certaines chansons et pour ma part, j'ai vu qu'on ne m'a pas éduquée de la même façon que mon frère. Moi, j'étais surprotégée alors que mon frère, lui, a le droit de faire plein de choses. Alors, je voudrais que l'égalité homme-femme ne soit pas que des belles paroles, mais que ce soit aussi des actes.
Merci Kendra de nous avoir parlé de ce fait qui vous touche. Une lectrice affamée, vous rêvez d'avoir votre propre canasson, alors en attendant, vous montez celui des autres. L'égoïsme vous insupporte et il est probable que dans le futur, vous écriviez un livre.
C'est cela.
Léna, vous ne seriez pas contre une double nationalité, pourquoi pas suédoise? Vous écrivez et comme Lucille, vous lisez.
Effectivement.
Pour vous, lire, c'est plutôt physique ou intellectuel?
Alors pour moi, c'est un peu des deux. Mais c'est quand même, ça reste quand même plus du domaine intellectuel. On tourne les pages, mais derrière, il faut réfléchir au sens du texte. Il faut imaginer le monde et suivre la trame de l'histoire. Pour moi, c'est important de lire, et je pense que c'est important pour tout le monde, parce qu'on vit des choses que les films et les séries ne nous apportent pas. On imagine à notre façon, et les livres, ils nous aident pour l'orthographe, la grammaire et la rédaction.
Et vous, Léna ?
Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. On est là, assis quelque part, mais à la fois si loin dans notre tête. Ça ne demande pas de réfléchir comme une activité vraiment intellectuelle le demanderait, et on n'est pas en pleine activité physique. Pour moi, lire est juste essentiel, j'aime ça, ça me permet de m'évader, de vivre des aventures extraordinaires et de rencontrer des personnages, certes imaginaires, mais tous si différents. Et on les voit grandir, on grandit un peu avec eux, on apprend de leurs erreurs, on apprend de leurs réussites. C'est un peu comme dans les contes, dont l'une des fonctions est de nous aider à grandir et à comprendre la société dans laquelle on vit. Aussi, comme l'a dit Lucille, ça nous aide à apprendre le français et à enrichir notre culture générale.
Et quel est votre livre préféré et pourquoi?
Alors moi, j'avais envie de parler d'une série de livres que j'ai lus qui s'intitule Les Effacés. Elle a été écrite par Bertrand Puard, donc c'est l'histoire de 5 adolescents qui ont échappé de justesse à la mort et qui ont été sauvés par un ancien médecin. À présent, ils œuvrent pour la justice, mais tout ça dans le secret. Donc la série, elle s'organise autour de divers événements, comme le trafic d'argent, les élections politiques, qui cachent tous de sombres machinations. Je lis beaucoup de fiction, de science-fiction, de fantastique, mais ce livre, il comprend une trame qui ressemble plus à celle d'un polar. J'ai adoré ce livre car on se rend compte à quel point les gens ils sont manipulables quand ils ont peur. Et il y a beaucoup d'injustices qui sont aussi dénoncées. On y découvre également des personnages très variés qui viennent de tous les horizons, un peu comme ceux qu'on rencontre dans la vraie vie.
Moi, l'un de mes livres préférés, il s'intitule Angel Fall de Suzanne Yee. Il fait plus ou moins partie des styles de lecture que j'ai, c'est-à-dire le fantastique, le fantasy ou la fiction. Et ce livre raconte l'histoire d'une adolescente qui vit sur notre terre, mais cette terre, elle est dévastée par les anges. Elle a une mère schizophrène et sa petite sœur se fait kidnapper par l'ennemi. Elle décide de partir à la recherche de sa petite sœur et en chemin, elle fait la rencontre d'un ange privé de ses ailes. Ils font une alliance contre nature et se battent en 3 tomes contre tous les dangers possibles dans cet univers post-apocalyptique qui abrite 2 sociétés très différentes, celle des humains et celle des anges. Aussi, l'auteur a magnifiquement inséré de l'humour.
D'accord. Et sur quel support lisez-vous ?
Alors moi, je lis beaucoup sur papier, mais j'aimerais bien m'acheter une liseuse, même si ça remplace pas le plaisir de la couverture et d'avoir un vrai livre dans les mains, parce que c'est plus pratique pour les voyages et les livres coûtent moins cher à acheter dessus. Après, il existe aussi la possibilité d'écouter les livres en audio, mais moi, j'aime pas ça parce que on n'arrive pas à suivre l'histoire à son rythme et j'ai du mal à m'y accrocher.
Et vous, Léna ?
De tous les supports, mon préféré et le seul que j'utilise vraiment, c'est le support papier. Pour le plaisir de tourner les pages, mais surtout pour le plaisir de remplir ma bibliothèque. Et je rêve d'un jour tenir mon propre livre entre mes mains.
Et vous écrivez ?
Oui.
Vous parlez de quoi ?
J'ai un grand projet, c'est l'histoire d'un monde un peu parallèle au nôtre. Et il y aurait plusieurs pays avec des rois et reines et des guerres.
D'accord, et vous, Lucille, vous écrivez ?
Oui, moi aussi, j'écris un livre de science-fiction qui se passerait dans le futur, où plusieurs jeunes qui ont commis des actes graves se retrouvent obligés de se battre pour avoir une chance de survivre.
D'accord. Et qu'est-ce qu'ils sont en librairie actuellement comme livre ?
Alors actuellement, il y a une 15aine de jours, il y a le dernier tome du cycle 4 d'une série qui se nomme La Guerre des Clans, qui est sortie. Donc ce livre s'intitule Le Dernier Espoir et il a été écrit par Erin Hunter. C'est l'histoire de rivalité entre divers clans de chats et j'ai trouvé cette série hyper intéressante car le fait que ça se passe du point de vue d'un chat change la trame de l'histoire, ça ne donne plus du tout le même effet.
Et vous ?
J'espère d'un jour pouvoir annoncer mon livre, mais en attendant, je ne suis pas trop l'actualité littéraire. Je lis un livre plutôt quand j'en entends parler ou quand je tombe dessus.
D'accord. Bah, merci pour ce moment culture avec vous, Léna et Lucille.
C'était un plaisir.
Oh. Et n'oubliez pas, lire nuit gravement à l'ignorance. Maintenant, on accueille un duo avec Elisa et Louane qui vont nous interpréter une chanson de Apologize One Republic. Then you go and cut me down the way.
such a sorry. Didn't think I'd turn around and say that it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. Another chance, take a fall, take a shot from you. I need you like a hurt needs a beat, is not from you. I loved you with a fire red, and I was down in blue. And you say sorry like the angel, heaven let me think was you. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. Too late to apologize. It's too late. It's too late. Too late to apologize. Yeah. I said it's too late to apologize. Yeah. I'm hauling on the rope, got me 10 feet off the ground.
Merci pour cette belle chanson et maintenant je vais vous poser quelques questions. Donc Louane, la pianiste, pourquoi avez-vous choisi ce morceau ?
J'ai choisi ce morceau car j'aime beaucoup le groupe One Republic, tout simplement parce que leur style musical me correspond bien. J'aime aussi la voix du chanteur que je trouve émouvante. Et j'ai choisi cette chanson en particulier parce qu'elle est très belle.
Et vous, Elisa, la chanteuse, que vous apporte le chant ?
Ça me détend tout simplement et ça me permet de sortir de la vie réelle et d'oublier tous les soucis.
Que vous apporte la musique ?
Moi, tout simplement, la musique, ça permet de me libérer et c'est un moyen d'oublier tout le reste de la vie.
Aimeriez-vous faire d'autres instruments ?
Je pense à de la guitare, mais le piano me correspond bien aussi.
Dans quelles circonstances chantez-vous et faites-vous de la musique ?
Alors moi, je chante dans ma chambre, toute seule, souvent. Et c'est souvent quand j'ai du temps, après les devoirs ou avant de me coucher.
Et moi, en général, je le fais chez moi. Avant, j'ai exercé le piano avec un professeur pendant 5 ans. Et j'ai décidé d'arrêter parce que tout simplement, ça ne me plaisait pas. Parce que ce n'était pas moi qui faisais exactement ce que je voulais. Voilà. Et du coup, j'ai arrêté pendant à peu près 1 an. Et puis aujourd'hui, j'ai retrouvé ma passion puis je fais toute seule.
Et quel est votre genre de musique ?
Moi, j'écoute beaucoup des chansons à paroles. Après, j'aime aussi le rock.
Moi aussi, j'aime.
Encore cette fichue sonnerie.
Ouais, encore. Oui, donc je disais, moi aussi, j'aime beaucoup le rock, mais j'écoute aussi un peu de punk et d'électro.
D'accord, merci beaucoup pour cette belle chanson. Et... merci encore.
De rien,
de rien.
Bonjour Jade, bonjour Laureline. Jade, vous avez une sœur et l'équitation fait votre bonheur. Pas votre sœur ?
Non.
Laureline, vous êtes commune. Chaque chroniqueuse élève au collège de la Source à Mout. Vous avez deux sœurs et dans quelques mois, vous nous quittez pour vous quittez le collège pour une aventure lycéenne.
Alors bon, nous on a choisi ce sujet, le sujet des téléphones, parce que tout primo, ça concerne notre quotidien. Et notre quotidien, ben on y tient. Et secondo, c'est aussi une source intarissable de conflits avec nos parents.
Alors évidemment, nous nous sommes nés avec les téléphones, c'est pour ça que pour nous, ça paraît normal de communiquer. Mais faut pas oublier que nos parents ont passé leur jeunesse dans un contexte très différent du nôtre. Les téléphones portables n'existaient pas. C'était la carte de téléphone, la pièce de 1 franc et la cabine rectangulaire au coin de la rue. Tout ça a disparu. Le paysage de la communication a changé. On pourrait même dire qu'il s'est métamorphosé. Et ils sont presque indispensables pour les jeunes. Les parents sont moins concernés puisqu'ils n'ont pas connu ça pendant leur enfance.
Nous passons énormément dessus, pour pas dire tout le temps. Dessus, nous reconnaissons que c'est une perte de temps, mais c'est plus fort que nous. On est attirés comme des abeilles autour d'un pot de miel. C'est quasi hypnotique. Faut bien reconnaître que c'est plus facile d'être en lien avec ses amis à toute heure de la journée. Alors on en profite.
Les réseaux sociaux vous apportent quoi ?
Les réseaux sociaux nous apportent de rester en contact avec le monde en général. On a l'impression de tout savoir, d'être bien, d'avoir de bons contacts, mais derrière un écran, on ne sait jamais qui peut se cacher. Il se peut que le compte ait été piraté ou tout simplement prêté. Les dangers sont également très présents.
Ils nous permettent aussi de se rapprocher de nos amis, de partager plus de choses, de pouvoir lire des choses que l'on n'oserait pas dire en face. Donc, de se voir plus régulièrement et de partager des moments forts.
Le téléphone, il sert aussi à s'informer des actualités dans le monde, comme les attentats.
Les photos sont très faciles à prendre et laissent une trace de bons moments, de souvenirs. On peut par la suite les partager. Les revoir provoquent des émotions.
La musique permet de s'évader, de repenser à des souvenirs, d'être dans notre bulle, de penser à plus rien, tout oublier quand on est seul.
Nos parents ont surtout peur de l'isolement, mais on en a conscience. On sait les limites.
Il faut quand même se dire que nos parents, eux aussi, sont victimes du même phénomène. La preuve, au cinéma, combien de personnes ont déjà oublié d'éteindre leur téléphone, ou même en voiture, il y en a plein.
Le téléphone est indispensable, car c'est une mémoire de souvenirs, même si cela ne fait pas plaisir aux parents, qu'on soit toujours dessus. Mais nous, ça nous permet de parler aussi de nos problèmes, ce qu'on n'a pas forcément envie de partager avec nos parents.
Allez, prenons un petit selfie, madame l'animatrice.
Bien sûr.
Et une dernière avec le public.
Et une fois de plus, le téléphone.
Merci de nous avoir parlé ce sujet très présent dans nos vies quotidiennes.
Au revoir.
Au revoir. Notre ami Enzo nous a rejoint pour nous parler d'une dernière chose.
Oui, je voulais vous parler de la semaine de l'entraide qui va se passer du 3 au 8 avril. Elle sera organisée par le Conseil de vie collégienne. Et cette association du collège a pour but de pouvoir donner la parole aux personnes qui n'ont pas forcément été élus en tant que délégués ou autre chose. Et cette semaine sera faite pour favoriser les personnes à dire merci, bonjour, enfin tous les gestes de la vie quotidienne.
D'accord, merci beaucoup pour votre intervention, Enzo.
Auditeurs adorés, public nombreux et chaleureux, voici venu l'heure de conclure ce moment d'expression radiophonique aussi plaisant qu'enrichissant. Merci à nos chroniqueurs, animateurs et interprètes. Merci au personnel éducatif du Collège de Mout pour leur accompagnement sans faille. Merci à ceux et celles qui ont bien voulu répondre à nos questions. Radioactive reprend du service dès lundi puisqu'une autre classe de 3e sera à pied d'œuvre pour vous offrir une émission inédite. En attendant, je laisse le micro, je quitte le studio et je vous salue. C'était Garance, bye bye, excellente fin de semaine et profitez bien et n'oubliez pas, surtout, soyez citoyens.